Montaigne sur la physionomie. Si quelqu'un estime que parmi tant d'autres exemples que je pouvais choisir dans les propos de Socrate, j'ai mal choisi en prenant celui-ci et trouve ce discours bien au-dessus des pensées ordinaires, qu'il sache que je l'ai fait volontairement, car j'en juge autrement. Je tiens au contraire que c'est un discours qui, de par sa distinction et son naturel, se situe bien plus profondément et bien plus en retrait que ce que l'on pense d'ordinaire. Il représente, par sa hardiesse non apprêtée, sa simplicité presque enfantine, l'impression première et la forme la plus pure de l'ignorance naïve. Car si l'on peut admettre que nous craignons naturellement la douleur, nous ne pouvons craindre la mort à cause d'elle-même. Elle fait partie de notre être, elle nous est non moins essentielle que la vie. Et pourquoi donc la nature nous en aurait-elle donné la haine et l'horreur, puisqu'elle lui est tellement utile pour maintenir la succession et l'évolution de ses ouvrages, et que dans l'univers se joue plus un rôle lié à la naissance et à l'accroissement qu'à sa perte et à la ruine? Ainsi l'ensemble des choses se renouvelle, dit Lucrèce. Une seule mort suscite 1000 vies, dit Ovide. La disparition d'une vie marque le passage à 1000 autres. La nature a donné aux animaux le soin d'eux-mêmes et de leur préservation. Ils vont jusqu'à craindre que leur état ne se dégrade, craindre de se heurter et de se blesser, que nous ne les attachions et ne les battions, toutes choses qui affectent leur sens et dont ils ont l'expérience. Mais ils ne peuvent craindre que nous les mettions à mort, non plus qu'ils n'ont la faculté d'imaginer la mort et de l'envisager. On dit qu'on les voit la supporter gaiement. La plupart des chevaux hennissent en mourant, et les cygnes chantent à ce moment-là. Mais on dit aussi qu'ils la recherchent en cas de besoin, comme le montrent plusieurs exemples chez les éléphants. Mais j'ajoute encore, la façon d'argumenter utilisée par Socrate dans ces circonstances n'est-elle pas admirable également de simplicité et de véhémence? Certes, il est bien plus facile de parler comme Aristote et de vivre comme César que de parler et vivre comme Socrate. C'est là que se situe l'ultime degré de la perfection de la difficulté, et l'art ne peut y atteindre. C'est que nos facultés n'ont pas été formées à cela. Nous ne les mettons pas à l'épreuve, nous ne les connaissons pas vraiment, nous nous affublons de celles d'autrui, et nous laissons les nôtres inemployées. C'est ainsi que quelqu'un pourrait dire de moi que je me suis contenté de faire dans ce livre un bouquet de fleurs étrangères, n'ayant fourni de mon côté que le fil pour les lier. Certes, j'ai reconnu publiquement que ces ornements empruntés m'accompagnent, mais je ne veux pas qu'ils me recouvrent et qu'ils me dissimulent. Ce serait le contraire même de mon dessein, moi qui ne veux montrer que moi-même et ce qui est mien naturellement. Si j'avais suivi mon idée, j'aurais probablement parlé seul en mon nom. Je me charge chaque jour un peu plus de ces emprunts, au-delà de mon idée première et de mon dessein initial, pour me confronter à la mode actuelle et par paresse. Si cela n'est pas en accord avec ce que je suis, comme il me semble, tant pis, cela peut être utile à quelqu'un d'autre. Il en est qui citent Platon et Homère, qui ne les ont jamais lus. Et moi-même, je les ai utilisés assez souvent autrement que dans leur version originale. Sans difficulté ni compétence particulière, ayant 1000 volumes de livres autour de moi dans l'endroit où j'écris, je peux emprunter à l'instant, si je veux, à une douzaine de ravaudeurs de ce genre-là, que je ne feuillette pourtant guère, de quoi illustrer mon essai sur la physionomie. Il me suffit de l'épître liminaire d'un Allemand pour me trouver farci de citations et trouver avec cela une gloire délectable en trompant les seuls gens. Ces agencements de lieux communs avec lesquels tant de gens s'épargnent de la peine ne sont utiles que pour les sujets eux-mêmes communs et pour faire étalage de science, non pour nous servir de règles de conduite. C'est le fruit ridicule de la science que Socrate agite si plaisamment contre Tidème. J'en ai vu qui faisaient des livres sur des choses qu'ils n'ont jamais comprises ni même étudiées, donnant à des savants de leurs amis que la recherche de telle matière, qui de telle autre, et se contentant de pour leur part d'en avoir esquissé le projet et d'avoir su fagoter ces éléments peu connus. Ce qui leur appartient, c'est en fait l'encre et le papier. C'est là, en vérité, acheter ou emprunter un livre, ce n'est pas le faire. C'est montrer aux gens, non pas qu'on sait faire un livre, mais qu'on ne sait pas le faire, ce dont ils pouvaient jusqu'alors douter. Un président se vantait devant moi d'avoir entassé plus de 200 citations d'autres auteurs dans un de ses arrêts présidentiels. En disant cela tout haut à chacun, il effaçait la gloire qu'il aurait pu en tirer. Voilà bien une vantardise de petit esprit, à mon avis, et absurde pour un tel sujet et une telle personne. Je fais, quant à moi, le contraire, et parmi tant d'emprunts, je suis bien aise si je peux en dérober quelqu'un pour l'utiliser ailleurs en le déguisant et le déformant. Au risque de laisser dire que c'est faute d'avoir compris son véritable usage que je l'emploie à ma façon, pour qu'il soit un peu plus le mien. Il en est qui se vendent de leur larcin et les prennent à leur compte. Ils ont donc plus de crédit que moi auprès des juges. Les gens comme moi, qui sont partisans de la nature, estiment que l'honneur qui est dû à l'invention est de loin supérieur à celui de la citation. Si j'avais voulu faire un livre savant, je l'aurais fait plus tôt. J'aurais écrit à une époque encore proche de mes études, quand j'avais plus d'esprit et de mémoire que maintenant. Et si j'avais voulu faire le métier d'écrivain, je me serais plutôt fié à la vigueur qu'on a à cet âge qu'à celui que j'ai maintenant. Et que serait-il advenu si la gracieuse faveur que le hasard m'a un jour offerte par l'entremise de cet ouvrage avait pu se produire à cette époque, au lieu de maintenant, à l'âge où l'on désire aussi bien posséder qu'on est prêt à perdre. Deux personnes de ma connaissance, grands hommes de savoir, ont perdu à mon avis la moitié de ce qu'ils valaient pour avoir refusé de publier à 40 ans et attendu d'en avoir 60. La maturité a ses défauts, tout comme la verdeur, mais ils sont encore pires, et la vieillesse est aussi peu propice à ce type de travail qu'à tout autre. Celui qui croit cacher sa décrépitude en la mettant sous presse est bien fou s'il espère en faire sortir des idées qui ne sentent pas le disgracié, le rêveur et l'assoupi. Notre esprit se constipe et épaissit en vieillissant. J'expose pompeusement et largement l'ignorance et j'énonce la science maigrement et piteusement. Cette dernière accessoirement et accidentellement, l'autre expressément et principalement. Mais je ne traite de rien spécialement, sinon du rien ni d'aucune science, si ce n'est celle de l'absence de science. J'ai choisi pour cela le moment où ma vie, qui est ce que je veux peindre, est tout entière devant mes yeux. Ce qui en reste tient plus de la mort que de la vie. Et même s'agissant de ma mort, si je la rencontrais et que je bavarde avec elle comme tant d'autres l'ont fait, je raconterais encore volontiers cela au public en partant. Socrate a été l'exemple parfait de toutes les grandes qualités. Je suis fâché qu'il ait été doté d'un corps et d'un visage si vilain, à ce que l'on dit, et si peu en harmonie avec la beauté de son âme, alors que lui-même était si amoureux de la beauté et si attaché à elle. Nature lui a fait une grave injustice. Il n'y a rien de plus vraisemblable que la conformité dans la relation du corps à l'esprit. Que l'âme soit logée dans tel ou tel corps a de l'importance pour elle, car c'est du corps que proviennent bien des éléments propres à aiguiser l'esprit, et d'autres qui peuvent l'émousser. Cet auteur, Cicéron, parle de laideur contre nature et de difformité des membres. Mais ce que nous appelons laideur, c'est aussi ce qui choque au premier coup d'œil, principalement sur le visage et qui nous rebute, soit à cause du teint, d'une tache, d'une expression désagréable, quelques causes souvent inexplicables sur des membres pourtant bien constitués et normaux. La laideur qui recouvrait une très belle âme était de cet ordre chez la Boétie. Cette laideur superficielle, qui est pourtant la plus impérieuse, cause cependant moins de tort à l'esprit et n'a guère de conséquences sur l'opinion des hommes. L'autre type de laideur, qui s'appelle plus justement difformité et est plus profonde, et étend plus facilement ses effets à l'intérieur. Ce n'est pas le soulier de cuir bien lisse, mais le soulier bien formé qui révèle la forme intérieure du pied. Socrate disait à propos de sa laideur corporelle qu'il en aurait été de même pour son âme s'il n'avait corrigé celle-ci par l'éducation. Mais, disant cela, je crois qu'il plaisantait, selon son habitude, jamais âme d'une telle qualité ne s'est faite d'elle-même. Je ne dirai jamais assez combien j'estime la beauté, qualité puissante et avantageuse. Socrate l'appelait une petite tyrannie, et Platon le privilège de la nature. Il n'est pas d'autre qualité qui la surpasse en prestige. Elle tient le premier rôle dans les rapports entre les gens. Elle se manifeste à nous, séduit notre jugement, et s'en remettre avec une grande autorité par l'extraordinaire impression qu'elle fait sur lui. Phrynée eût perdu son procès, même avec l'aide d'un excellent avocat, si ouvrant sa robe, elle n'avait pas séduit les juges par l'éclat de sa beauté. Et je constate que Cyrus, Alexandre, César, ces trois maîtres du monde, ne l'ont pas négligé dans la façon de mener leur grand dessein, et le premier Scipio non plus. Un même mot grec désigne à la fois ce qui est beau et ce qui est bon. Et le Saint-Esprit appelle souvent bon ce qu'il veut désigner comme beau. Je garderai volontiers le rang des biens, comme le disait la chanson, que Platon dit avoir été très connu, tiré de l'œuvre de quelques poètes anciens. La santé, la beauté, la richesse. Aristote dit que c'est aux beaux qu'il appartient de commander, et que quand leur beauté en vient à approcher celle des statues des dieux, une même vénération leur est due. À quelqu'un qui lui demandait pourquoi on fréquentait ceux qui sont beaux plus souvent et plus longtemps, il répondit « C'est une question qui ne peut être posée que par un aveugle. » La plupart des philosophes et des plus grands d'entre eux payèrent leurs études et acquirent la sagesse par l'entremise de la beauté et des faveurs qu'on lui accorde. Non seulement chez ceux qui sont à mon service, mais chez les animaux eux-mêmes. Je considère que la beauté est à deux doigts de la bonté. Il me semble pourtant que la forme et l'aspect d'un visage, les traits par lesquels on augure des dispositions internes de nos destins à venir, est quelque chose qui ne se laisse pas facilement ranger au chapitre de la beauté ou de la laideur. De la même façon que toute odeur agréable et la sérénité de l'air ne promettent pas la santé, ni toute lourdeur et puanteur l'infection, dans une époque où sévit la peste. Ceux qui accusent les dames de contredire leur beauté par leurs mœurs n'ont pas toujours raison. Car sur un visage qui n'est pas très bien dessiné, peut néanmoins régner un air de probité inspirant la confiance, de même qu'à l'inverse, j'ai parfois lu dans de beaux yeux les menaces dues à une nature méchante et redoutable. Il y a des physionomies favorables, et dans une foule d'ennemis victorieux, vous choisirez immédiatement parmi quantité de gens comme inconnu, celui-là plutôt que cet autre, pour vous rendre à lui, lui remettre votre vie. Il ne s'agit pas là de beauté à proprement parler. C'est une bien faible garantie que la mine de quelqu'un, mais toutefois elle mérite d'être prise en considération. Et si j'avais à les châtier, ce que je châtierais le plus rudement seraient les méchants qui font mentir et trahissent les promesses que la nature leur a posées sur le front. Je serais plus sévère pour ceux qui cachent la méchanceté sous une apparence de bienveillance. Il semble qu'il y ait des visages heureux, d'autres malheureux. Et je crois qu'il faut quelque habileté pour distinguer les visages bienveillants des niais, les sévères des rudes, les méchants des chagrins, les dédaigneux des mélancoliques et autres airs voisins. Il y a des beautés non seulement fières mais aigres, et d'autres douces jusqu'à en être fades. Je demeure indécis sur la possibilité d'en tirer quelques pronostics sur ce qui leur arrivera dans le futur. J'ai repris à mon compte, comme je l'ai dit ailleurs, tout simplement et tout crûment, ce précepte ancien qui dit que nous ne saurions avoir tort en suivant la nature et que le souverain précepte, c'est de se conformer à elle. Je n'ai pas, comme Socrate, corrigé par la force de la raison mes dispositions naturelles, et je n'ai nullement modifié artificiellement mes penchants. Je me laisse aller comme je suis venu. Je ne combats rien. Mes deux pièces maîtresses, mon corps et mon âme, vivent d'elles-mêmes en paix et en bon accord. Le lait de ma nourrice a été, Dieu merci, normalement sain et équilibré. En passant, je voudrais dire ceci. Je trouve qu'on s'accorde plus de prix qu'elle ne vaut à une certaine image de la vertu scolastique asservie à des préceptes soumise à l'espérance et à la crainte, et qui est presque la seule en vigueur chez nous. J'aime la vertu, quand ce ne sont pas les lois et la religion qui la font, mais la peaufine et lui donne son autorité. J'aime qu'elle soit capable de se soutenir sans aide, qu'elle est poussée sur ses propres racines par la semence de la raison universelle qui est inscrite en tout homme dans nos natures. Cette raison qui permet à Socrate de redresser ses tendances vicieuses, le rend obéissant aux hommes et aux dieux qui règnent sur sa ville, courageux devant la mort de nom, non parce que son âme est immortelle, mais parce qu'il est mortel. C'est une mauvaise règle pour toute société, bien plus dommageable qu'ingénieuse et subtile, celle qui veut faire croire au peuple que la foi peut suffire seule, indépendamment de la conduite, pour contenter la justice divine. L'expérience nous montre qu'il y a une énorme différence entre la dévotion et la conscience. J'ai une apparence favorable, aussi bien physiquement que par l'opinion qu'elle peut donner de moi. Et cette apparence est tout le contraire de celle de Socrate. Il m'est arrivé souvent que, par le seul fait de ma présence et de mon allure, des gens qui ne me connaissaient pas du tout m'ont témoigné une grande confiance dans leurs propres affaires comme à propos des miennes. Dans les pays étrangers, j'ai bénéficié pour cela de faveurs singulières et rares. En voilà deux exemples qui méritent peut-être que je prenne la peine de les raconter en détail. Un individu projeta de nous prendre par surprise ma maison et moi-même. Il fut assez adroit pour arriver seul à ma porte et insister avec force pour qu'on le laissât entrer. Je le connaissais de nom, mais j'avais quelques raisons de me fier à lui puisqu'il était mon voisin et vaguement mon parent par alliance. Je lui fis ouvrir comme je le fais pour tout le monde. Le voici, tout effrayé, avec un cheval hors d'haleine et harassé. Il me débite cette fable. Il venait d'affronter, à une demi-lieue d'ici, un de ses ennemis que je connaissais aussi. Bon, j'avais même entendu parler de leur querelle. Cet ennemi l'avait poursuivi de très près, et lui-même, surpris et en désarroi du fait d'une escorte inférieure en nombre, s'était précipité à ma porte pour y trouver refuge. Il me dit encore qu'il était très inquiet pour ces gens dont il pensait qu'ils étaient morts ou prisonniers. J'essayais tout naturellement de le réconforter, de le rassurer et de le faire se reposer. Mais bientôt après, voilà 4 ou 5 soldats qui se présentent à ma porte avec la même mine et le même effroi, et puis d'autres et d'autres encore ensuite, bien équipés et armés jusqu'à 25 ou 30, qui feignaient d'avoir leur ennemi sur les talons. Cette bizarrerie commença à éveiller mes soupçons. Je n'ignorais pas à quelle époque je vivais et combien ma maison pouvait être convoitée, et je savais aussi que la même chose était arrivée à des personnes de ma connaissance. Tant et si bien que, trouvant qu'il n'était pas convenable d'avoir commencé à faire plaisir et de ne pas aller jusqu'au bout, je pris le parti le plus naturel et le plus simple, comme je le fais toujours, et donnai l'ordre qu'on les laissât entrer. Je suis en vérité peu défiant et suspicieux de nature. Je penche volontiers vers l'excuse et l'interprétation la plus douce des choses. Je prends les hommes pour ce qu'ils sont généralement. Je ne crois pas à leur penchant pervers et contre nature, et si je m'y suis contraint par une preuve certaine, de même que pour les monstres et les miracles. Je suis en outre un homme qui s'en remet volontiers au hasard et me laisse aller à corps perdu entre ses bras. Jusqu'ici, j'ai eu plus de raisons de m'en louer que de m'en plaindre, et j'ai trouvé le sort plus avisé et plus amical pour mes affaires que je ne le suis moi-même. Il y a eu dans ma vie quelques situations dont on peut fort bien dire que la conduite en a été délicate, ou si l'on veut, sage. De celle-là, considérez que le tiers a dépendu de moi, et les deux autres tiers, au moins, du hasard. Il me semble que nous nous trompons dans la mesure où nous ne faisons pas suffisamment confiance au ciel et attendons de notre conduite plus qu'il ne nous appartient de le faire. Voilà pourquoi nos projets échouent si souvent. Le ciel est jaloux de l'importance que nous attribuons au droit de la sagesse humaine au détriment des siens et les rétrécit d'autant plus que nous amplifions. Donc tous ces gens, donc, demeurèrent à cheval dans ma cour, pendant que leur chef était avec moi dans la grande salle. Il n'avait même pas voulu qu'on mît son cheval à l'écurie, prétendant qu'il allait s'en aller dès qu'il aurait eu des nouvelles de ses hommes. Il se vit alors maître de son entreprise, et il ne lui restait plus qu'à mettre son plan à exécution. Il a dit souvent depuis, car il ne craignait pas de raconter cette histoire, que c'était mon visage et mon air détaché qui lui avaient arraché la trahison des mains. Il remonta à cheval, ses gens ayant continuellement les yeux sur lui pour voir quel signe il allait leur donner, et bien étonné de le voir sortir en abandonnant l'avantage obtenu. Une autre fois, me fiant à je ne sais quelle trêve qui venait d'être proclamée dans nos armées, je me mis en route pour un voyage qui devait me faire traverser un pays particulièrement dangereux. On n'eut pas plutôt découvert ma présence que 3 ou 4 groupes de cavaliers surgissent de divers endroits pour me prendre. L'un d'eux me rejoignit lors de ma 3e étape, et je fus attaqué par 15 ou 20 gentilshommes masqués, suivis d'une quantité d'archers à cheval. Me voilà pris, je me rends, on me traîne dans les fourrés d'une forêt voisine, on m'enlève mon cheval, on dévalise mes coffres, ma cassette est prise, les chevaux et leur équipage attribués à de nouveaux maîtres. Nous demeurâmes longtemps dans ce hallier à discuter de ma rançon. Il la fixait si haut qu'il semblait bien qu'il ne me connaissait guère. Ils entrèrent en grande discussion au sujet de ma vie, Et il est vrai que plusieurs de ces circonstances faisaient peser sur moi la menace du danger dans lequel je me trouvais maintenant. Je m'accrochais toujours à l'existence de la trêve en ma faveur, leur abandonnant seulement le butin pris en me dépouillant, qui n'était pas à mépriser, sans promettre une autre rançon. Après 2 ou 3 heures passées là, ils me firent monter sur un cheval qui ne pouvait leur échapper, confièrent le soin de me conduire personnellement à 15 ou 20 arquebusiers, dispersèrent mes gens aux mains des autres soldats et ordonnèrent qu'on nous emmène comme prisonniers par diverses routes. Comme j'étais déjà 2 ou 3 portées d'arquebuses de là, voilà que se produit un changement tout à fait inattendu. Je vois revenir à moi le chef de la troupe avec des paroles plus douces. Il se met en devoir de rechercher mes hardes dispersées et me fait rendre celles qu'il peut trouver, jusqu'à ma cassette. Mais le meilleur présent que l'on me fit alors, ce fut de me rendre finalement ma liberté. Le reste n'avait guère d'importance pour moi à ce moment-là. Je ne connais toujours pas vraiment la véritable cause d'un changement si soudain et de ce retournement, sans aucune raison apparente, d'un repentir aussi miraculeux à cette époque, dans une entreprise préméditée et délibérée, qui était devenue une pratique normale, car je leur avais tout de suite avoué de quelle partie j'étais et quel chemin je prenais. Le personnage le plus important, qui se démasqua et me fit connaître son nom, me répéta plusieurs fois que je devais cette délivrance au visage que j'offrais, à la liberté et à la fermeté de mes paroles, qui me rendait indigne d'un tel traitement, et me demanda de le traiter de la même façon à l'occasion. Il est possible que la volonté divine ait voulu se servir de ce moyen pour me préserver, car elle me défendit encore le lendemain lors d'embûches bien pires et dont ils l'avaient eux-mêmes averti. L'un des 2 anciens hommes concernés dans cette histoire est encore en vie et peut la raconter. L'autre a été tué il n'y a pas longtemps. Si mon visage ne témoignait pas pour moi, si on ne lisait dans mes yeux et dans ma voix la sincérité de mes intentions, je n'aurais pas vécu si longtemps sans querelle et sans mauvais coup, avec cette grande liberté que j'ai de dire à tort et à travers ce qui me vient à l'esprit et de porter des jugements sans retenue. Cette attitude peut fort bien passer pour un civil et peu conforme à nos usages, mais je n'ai vu personne qui l'ait trouvée outrageuse et méchante, personne qui ait été blessé par ma liberté de parole si elle est venue directement de moi. Les paroles que l'on répète ont un autre son, et du coup un autre sens. Je ne hais personne non plus, et je suis si peu porté à offenser les autres que je ne peux me résoudre à les faire même quand il s'agit de servir la raison elle-même. Lorsque l'occasion m'a amené à participer à des jugements criminels, j'ai plutôt failli à la justice. On reprochait, paraît-il, à Aristote d'avoir été trop miséricordieux envers un méchant homme. « J'ai été, c'est vrai, répondit-il, miséricordieux envers l'homme, mais non envers sa méchanceté. Les jugements ordinaires sont incités à la vengeance par l'horreur du méfait. C'est au contraire cela même qui refroidit le mien. L'horreur du premier meurtre m'en fait craindre un second, et la laideur de la première cruauté m'en fait abhorrer toute imitation. À moi, qui ne suis qu'un valet de trèfle, peut s'appliquer ce que l'on disait de Carylos, roi de Sparte. Il ne saurait être bon, puisqu'il n'est pas mauvais pour les méchants. Ou encore, car Plutarque le présente sous ces 2 aspects, comme il le fait pour 1000 autres choses, diversement et contradictoirement, il doit forcément être bon, puisqu'il l'est même pour les méchants. Si je suis fâché d'user des moyens légitimes envers ceux que cela mécontente, je dois reconnaître qu'envers ceux qui y consentent, je ne suis pas très regardant en employé d'illégitimes.